Et du coup, on va se retrouver là avec ce martyr de Saint Polycarpe qui nous dit, eh bien, je m'y rassemble pour acte de mémoire, pour me rendre présent et pour me préparer moi-même au martyr. Eh bien, j'ai les trois dimensions de l'Eucharistie qui sont présentes. L'Eucharistie qui est mémorial de la passion et de la résurrection du Christ, qui rend présent ce mémorial, et qui sert à quoi? Eh bien, qui sert à me rendre mieux, meilleur chrétien, sinon ça ne sert à rien. Donc, qui est en vertu de vers l'avenir. Du coup, le télescopage des mémoires des martyrs et de l'Eucharistie devient assez évident, ou assez naturel. Surtout s'il est évident que l'Eucharistie est une histoire de mort et de résurrection et de vie éternelle. Et qu'il est évident que la mort des martyrs est une histoire de résurrection et de vie éternelle. Vous voyez, on est exactement sur la même logique. Et alors, j'en termine avec la question spirituelle ou théologique. C'est que du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce que Jésus-Christ a fait en l'an 33 ou quelque chose comme ça, ça continue à être à l'œuvre, eh bien, dans l'année 120, dans l'année 150, dans l'année 180, et puis si vous prenez les martyrs les plus récents, jusqu'aux martyrs les plus récents. C'est ça l'enjeu, en fait. Alors, je vais insister un peu plus tout à l'heure là-dessus. Mais pour le moment, je voulais juste qu'on mette en place l'incorruptibilité du corps, le recueil des ossements et l'invention d'une célébration de l'anniversaire du martyr. Encore une fois, ce n'est pas prévu dans le Nouveau Testament, je sais bien. Est-ce que c'est grave? Je ne suis pas sûr. Au sens où la foi de ces premiers chrétiens a été de s'exprimer de cette manière-là, en disant, je ne peux pas laisser de côté ceux qui ont été les premiers à vivre jusqu'au bout leur vie de chrétien. Et alors après, on verra comment on passera des reliques de martyrs aux reliques des non-martyrs. Parce que ça va ensemble. Est-ce que pour l'histoire de Saint Polycarpe, on est à peu près clair? Oui. Alors, je voudrais maintenant avancer en continuant un petit peu dans la chronologie, mais voyez, je suis toujours. Alors, je parle sans plan parce que c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas où je vais, en fait. Je pense qu'on peut arriver à suivre. Actuellement, je suis toujours dans une période où le christianisme est hors la loi. Hors la loi, clandestin, ça ne veut pas forcément dire caché. Faites bien attention. Il y a bien des gens qui font des trucs marginaux sans être complètement cachés. Mais on va les chercher que quand vraiment ça pose problème, quand il y a un désordre trop grand. Simplement, le christianisme n'est pas reconnu de manière publique. Donc concrètement, je suis avant Constantin. Donc c'est comme l'année dernière avec le Saint-Sépulcre, avec Constantin, on va avoir un changement massif de choses. Réfléchissez-y à ça. C'est une digression, mais elle a son importance. Si je regrette que Constantin ait fait changer beaucoup de choses dans le christianisme, eh bien, dans ce cas-là, je dois admettre qu'aujourd'hui, le christianisme puisse devenir hors la loi. Parce que le christianisme d'avant Constantin, c'est un christianisme hors la loi. Donc, si je regrette les innovations de Constantin quand le christianisme devient légal, je dois admettre que le christianisme hors la loi, c'est pas mal. Je ne suis pas sûr que beaucoup de ceux qui regrettent Constantin, les innovations de Constantin, voudraient en réalité d'un christianisme hors la loi. Mais en tout cas, il faut voir un peu quand même comment les choses vont ensemble. Alors, je reviens à la période avant Constantin. Je vous ai mis un deuxième texte que je voudrais qu'on lise. Alors, ça va aller un peu plus vite, mais c'est parce qu'il met en place quand même quelque chose et qu'il est dans la continuité du texte de Polycarpe. Pourtant, on est dans un monde qui n'a rien à voir, puisque nous sommes à Carthage. Donc, Carthage. dans l'actuelle Tunisie, Carthage, qui est un peu aujourd'hui la banlieue chic de Tunis, si vous voulez, eh bien, vous savez, Carthage, qui est un peu la, je sais, c'est pas la capitale, mais quand même, qui est l'une des villes les plus importantes de l'Afrique romaine, est en même temps porté un tribut assez important aux martyrs. Je pense en particulier aux martyrs de Félicité et Perpétue. Bon, connais plus, mais enfin bon, on nous montre à Carthage l'amphithéâtre où elles ont été martyrisées, etc. Et à Carthage, vous avez un évêque extrêmement important, qui est l'évêque Cyprien de Carthage. Évêque jusqu'à son martyre, encore une fois, en 258. Cyprien de Carthage est un évêque à poigne, donc ça veut dire qu'il écrit des lettres particulièrement dures, il s'exprime, il donne ses quatre vérités au pape, etc. Cyprien de Carthage est en même temps quelqu'un qui a énormément réfléchi à cette question du culte des martyrs. Alors, comme c'est quelqu'un qui a son franc-parler, ça veut dire qu'il a passé une bonne partie de son épiscopat en exil. Au sens où ce n'est pas emphatique non plus, ça veut dire qu'il ne cherche pas à se faire tuer, donc il est en exil. Et quand on est en exil, comment on fait pour communiquer? Eh bien, on envoie des lettres. Et c'est exactement ce que Carthage fait. Oui, il envoie, alors il y en a un certain nombre de lettres. Là, c'est la lettre numéro 12, peu importe. Cyprien, au prêtre et au diacre, ses frères, salut. Donc ça, c'est une lettre de Cyprien, une circulaire, quoi. Enfin, je n'ai pas d'autre nom pour dire ça. Si vous voulez, une encyclique où il s'adresse à la totalité des prêtres de son diocèse et des diacres de son diocèse. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il suffit de lire. Alors, on va commencer à lire tranquillement. Bon, le début n'est pas le plus intéressant, mais enfin, moi, j'aime pas trop quand on coupe les textes dans tous les sens. Donc, alors, quoi que je sache bien, mes très chers frères, que mes lettres vous ont fréquemment recommandé de veiller avec zèle sur ceux qui ont glorieusement confessé le Seigneur et qui sont en prison. Alors, confesser le Seigneur, ça veut dire j'affirme que Jésus est mon Seigneur et je reconnais que je suis chrétien. Ça, confesser le Seigneur. Et du coup, je suis mis en prison. Cependant, j'insiste encore auprès de vous afin que rien ne manque au point de vue des soins à ceux à qui rien ne manque au point de vue de la gloire. Plût à Dieu que le rang que j'occupe me permît d'être présent là-bas. C'est de grand cœur qu'accomplissant mon ministère ordinaire, je remplirai auprès de nos chers frères tous les bons offices de la charité. C'est très concret, hein, je veux dire. Hein. C'est soigner les blessures, apporter à manger, donner des médicaments, enfin, c'est donner un petit réconfort, visiter les prisonniers. C'est extrêmement concret comme affaire. Que du moins, vos bons soins me remplacent et fassent ce qu'il convient de faire à l'égard de ceux que la divine bonté a honorés pour la foi et le courage qu'ils ont montré. Et quand même de ceux qui, sans avoir été martyrisés, meurent en prison et sortent ainsi glorieusement de ce monde, doivent être aussi l'objet d'une vigilance particulière et de soins spéciaux. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué. Les corps même de ceux qui, sans avoir été martyrisés, meurent en prison. Tout d'un coup, il ne s'agit plus de donner à manger, puisqu'ils sont morts. Donc, le soin qui va être accordé est un soin post-mortem, alors qui peut être une question de sépulture, mais pas seulement. Alors, on va voir. La vaillance de ces confesseurs, alors le confesseur, c'est dit techniquement celui qui a été torturé, ou qui est mis en prison et qui finit par mourir en prison. Donc techniquement, il n'est pas martyr, puisqu'il n'est pas mort en étant tué d'une dague, brûlé, je sais pas, dévoré par une bête féroce, tout ce que vous voulez. Donc techniquement, il n'est pas martyr. Mais il est confesseur parce que quand même, il a porté dans sa chair la marque, enfin, il a porté dans sa chair un certain nombre de tortures au nom du Christ. C'est dommage, hein, vous savez que cette catégorie, elle n'existe plus, en fait. Parce que les évêques chinois qui croupissent en prison, tous ceux qui sont passés dans les prisons au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, enfin dans toute l'Asie orientale, dans les années 1960, 70, 80, qui sont sortis de prison vivants, ne seront jamais martyrs. Alors qu'ils ont confessé la foi dans leur chair, en tout cas infiniment plus que moi, qui n'ai jamais été jeté en prison parce que je professe le Christ, et je suppose infiniment plus que vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La vaillance de ces confesseurs et leur gloire ne sont pas moindres que celles des martyrs, et par conséquent, il n'y a point de raison de ne pas les joindre à leur troupe bienheureuse. Pas de raison. Ils ont enduré tout ce qu'ils étaient prêts à endurer. Après, on a l'explication spirituelle. Celui qui fait tourment et à la mort au regard de Dieu a souffert en réalité tout ce qu'il a accepté de souffrir. Ce n'est pas lui qui a manqué au supplice, ce sont les supplices qui lui ont manqué. Celui qui m'aura confessé devant les hommes, je le confesserai à mon tour devant mon Père, dit le Seigneur, ils l'ont confessé. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Ils ont persévéré et jusqu'à la fin sans défaillance et sans tâche. Ils ont soutenu les mérites de leur courage. Il est encore écrit, soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Jusqu'à la mort, ils sont restés fidèles, inébranlables, invincibles. Quant à la volonté de confesser le Christ et à la confession même s'ajoute la mort dans la prison et dans les chaînes. La gloire du martyr est consommée. Alors, qu'est-ce que fait Saint Cyprien de Carthage ici? Il élargit la catégorie de sainteté. Jusqu'à présent, les saints ne seront, n'étaient que des martyrs. Tout d'un coup, maintenant, on a les confesseurs. Parce qu'il nous dit, bon, enfin, quand même, les confesseurs, c'est pas si mal. Vous voyez, ils sont quand même allés au bout, ceux-là. Je trouve ça intéressant parce que Cyprien de Carthage, ce n'est pas précisément un laxiste. Hein. Donc, du coup, si quelqu'un qui est particulièrement rigide nous dit qu'on peut le faire, c'est que bon, on doit pouvoir y aller. Deuxième chose que nous dit Saint Cyprien de Carthage, c'est la fin du texte. Tenez note des jours où ils sortent de ce monde, pour que nous puissions joindre leur mémoire à celle des martyrs, encore que Tertullus ne manque pas là-bas d'avoir soin aussi des corps de ses frères. Il m'a écrit, il m'écrit constamment et me fait connaître les jours où les bienheureux frères en passent et s'en vont à l'immortalité d'une mort glorieuse. Et ici sont célébrés par nos soins des oblations et des sacrifices pour leur mémoire. Mais bientôt, avec la protection du Seigneur, ils célébreront là-bas avec vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tenez note des jours où ils sortent de ce monde. Donc, Saint-Priest nous dit, faites un calendrier. À quoi ça sert de faire un calendrier? Vous vous rappelez Saint-Polycarpe, c'est très facile. Pour pouvoir la mémoire. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on va en avoir trop. Je ne sais pas comment, si ceux qui ont des familles nombreuses, beaucoup de petits-enfants finissent par avoir énormément de mal à se rappeler des anniversaires de leurs petits-enfants. Eh bien, c'est exactement de ça dont il s'agit. Il y en a trop, on ne va pas y arriver. Alors, tenir un calendrier. Pour pouvoir célébrer la mémoire des confesseurs en même temps que la mémoire des martyrs. Donc ça nous dit simplement un culte des saints. Mais il y a une troisième chose qui s'ajoute. Sont célébrées des oblations et des sacrifices en leur mémoire. Tout à l'heure, on n'avait pas ça. On nous disait juste, on va se réunir le jour de l'anniversaire du martyr. Là, on nous dit, pour célébrer cet anniversaire, on va présenter des oblations et des sacrifices. Ben ça, c'est le vocabulaire de l'Eucharistie. Hein. Présenter une oblation, ça veut dire célébrer la messe. Offrir un sacrifice, ça veut dire célébrer la messe. Donc, en 257, ou quelque chose comme ça, peut-être un peu avant, Cyprien de Carthage considère comme évident qu'on célèbre des messes en l'honneur des martyrs. C'est intéressant quand même, parce que on est seulement un siècle et demi après la mort du Christ. Quatrième et dernière chose sur l'attitude. Mais bientôt, avec la protection du Seigneur, nous les célébrerons là-bas avec vous. Donc, qu'est-ce que dit Saint Cyprien? Il nous dit, du lieu de mon exil, je vais célébrer la messe en mémoire des martyrs. Mais enfin, quand même, j'ai bien envie de le faire avec vous, c'est-à-dire à l'endroit où se trouvent les ossements des saints confesseurs. Ce n'est pas juste avec vous, mon presbytérium, etc. C'est avec vous qui êtes à Carthage, là où il y a les reliques. Donc, c'est un plus que de célébrer la messe par-dessus les ossements. Ou à côté des ossements. Je ne sais. Pour le moment, ce n'est pas très précis. Ça va se préciser. C'est quelque chose, hein, vous savez, qui existe encore aujourd'hui. Quand j'étais à Rome, un des grands sports à Rome consistait à parvenir à célébrer la messe au-dessus du corps du saint en question. Alors, à des moments, c'était facile. Par exemple, le 21 janvier, on allait à Sainte-Agnès parce que... Alors, j'avoue que j'étais un peu sceptique parce qu'on nous montrait un crâne absolument minuscule en nous expliquant que ce crâne était le crâne de Sainte-Agnès quand elle était morte à 13 ans. J'avoue que j'avais un peu l'impression d'être devant une tête réduite de Jivago, vous savez. Donc, c'est-à-dire que ça a donné l'impression un petit peu étonnante. Mais c'est pas grave. En tout cas, le sport, c'était d'aller là, de se réserver un créneau suffisamment tôt pour pouvoir célébrer la Sainte-Agnès à cet endroit-là. Dans des choses plus faciles, le 14 juillet. Ah oui, le 14 juillet, personne ne sait qu'il y a une fête d'un grand saint qu'on célèbre. C'est la Saint-Camille de l'Hélice. Saint-Camille de l'Hélice, le fondateur de la Croix-Rouge. Eh bien, le vrai fondateur de la Croix-Rouge, pas Henri Dunant. Parce que la Croix-Rouge d'Henri Dunant, elle est empruntée aux Camilliens. Enfin, peu importe. Eh bien, on a dans sa petite église romaine de la Sainte-Marie-Madeleine, où il est enterré, il y a sa dépouille, eh bien, le 14 juillet, le sport national, c'est d'aller au-dessus de sa dépouille pour célébrer la messe. C'est exactement la même chose. Alors, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à dire que je vais aller au plus près des ossements. Au plus près des ossements. Non pas que ça... Alors, c'était assez drôle parce que je me souviens, pourtant c'était un Sicilien, celui-là qui me dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est ridicule, on n'a pas besoin de ça. Ben oui, c'est vrai, on n'en a pas besoin. Je suis tout à fait d'accord, on n'en a absolument pas besoin. Mais le fait d'aller au corps, alors, en latin, ad santos, auprès du saint, est un peu un acte de dévotion, en disant, c'est bien réel. Parce que lorsque je suis sur un martyr dont je n'ai absolument aucune trace corporelle, ça devient un peu plus difficile. Je ne sais pas. Par exemple, si je prends notre amie Sainte-Philomène, qui a déjà vu les reliques de Sainte-Philomène? Personne. Donc en fait, le corps me permet de m'assurer, et ça c'est un problème d'historien, qu'il y a bien quelqu'un qui a existé. Est-ce que c'est la bonne personne? J'en sais rien. Pour l'époque antique, le corps permet de nous dire il y a résurrection des morts. Et je vous rappelle que si je célèbre la messe, c'est en vue de la résurrection des morts, pour la vie éternelle, mémoriale, mais vers l'avenir, tournée vers l'avenir, si vous voulez. C'est important de ne pas l'oublier, cette perspective-là. Voilà. La nouvelle traduction du missel, je crois qu'elle le dit très bien, en fait. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Ce n'est pas uniquement les repas du Seigneur ancien, vers les noces de l'agneau. Donc, il y a une dimension mystique qui est vraiment présente là-dedans. Ce que je dis, c'est la vie éternelle. Si je communie, c'est pour la vie éternelle. Alors, on s'en tient là. Pour Saint-Cyprien de Carthage, donc si je me résume, Saint-Cyprien de Carthage accentue la question de l'anniversaire des martyrs, auquel il ajoute l'anniversaire des confesseurs. Il témoigne de ce qu'il n'est pas apparemment normal de célébrer des messes en l'honneur des saints martyrs et du coup des saints confesseurs. Et il témoigne de ce qu'une dévotion est ancrée que de célébrer ces messes-là au plus près du corps des martyrs et des confesseurs. Est-ce que le jalon est à peu près clair? Alors, on va encore rester, je suis hors texte maintenant, mais on va en rester à peu près à la même époque. Donc, pour le moment, encore pendant quelques minutes avant Constantin. Et ensuite, on pourra passer après Constantin. Parce que, en fait, ce qui se passe avec les martyrs, je vous disais qu'il y avait une question qui était liée à la foi en la résurrection des morts. De quelle manière? Est-ce que je vous ai bien parlé la semaine dernière des héros antiques? Mais quelque part, dans le christianisme, le martyr joue le rôle du héros. C'est un peu le héros de remplacement, enfin, plus que de remplacement d'ailleurs. De quelle manière? Là. Le héros, c'est celui qui, pour l'homme antique, a accompli des faits remarquables dans sa vie. Et c'est comme ça que vous vous trouvez avec des mausolées somptueux à Rome. Mausolée des Scipions. Le mausolée, pensons particulièrement à celui-là, parce que là, c'est quand même un des plus exceptionnels qu'on ait. Ce n'est pas le seul. Ou si vous préférez, tout simplement, le mausolée d'Auguste à Rome. Le mausolée qui permet d'entretenir le souvenir du héros. Et qui, dans certains cas, est divinisé. C'est le cas des empereurs romains, mais dont leur divinisation, en tout cas au début, n'est jamais une divinisation de leur vivant, et toujours une divinisation post-mortem. Je décrète qu'il est un héros. Mais en fait, on se fixe parfois, les chrétiens se fixent un peu là-dessus, mais en fait, ce n'est pas très, très important, en fait, au sens où qu'il y a pas mal de gens à qui ça arrive d'être devenir des héros. Toute personne qui a accompli des actions importantes au cours de sa vie devient un héros. On peut avoir un mausolée important. Et le mausolée a pour but que l'on se rappelle de ce que cette personne a fait. Donc c'est uniquement du côté du mémorial. Dans le héros antique, il n'y a rien du côté du présent et rien du côté de l'avenir. C'est la différence avec l'Eucharistie. Si vous voulez, quelque part, pour rendre présent, c'est les descendants du héros qui doivent se mettre à la hauteur de la tâche. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, par exemple, lorsque Cicéron accuse l'arrière-petite-fille des Scipions en lui disant « Tu es devenue une demi-courtisane, c'est scandaleux, tu fais honte à tes ancêtres », c'est ça veut dire. Mais ce n'est pas plus que ça. C'est-à-dire que le héros antique, c'est un modèle à actualiser, mais ce n'est pas plus que ça. Alors le martyr chrétien, il est d'abord un héros dans le sens où il est précisément ce modèle dont on va faire mémoire. Ça, c'est la première étape. Alors, je vais vous lire un texte d'un prêtre Gaius, peu importe. Le prêtre Gaius est un prêtre de Rome qui vit Deuxième siècle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Très court. Pour moi, je peux te montrer les trophées des apôtres. Si tu veux aller au Vatican ou sur la route d'Ostie, tu trouveras les trophées de ceux qui ont fondé cette église. Donc Gallus, lui, il se situe pour le moment au niveau des trophées. Alors le trophée, ben, c'est exactement la même chose que le trophée militaire. C'est exactement la même chose que le trophée du héros. C'est-à-dire de dire, j'ai quelqu'un dont la vie a été tellement bien que on peut lui ériger un mémorial pour qu'on se rappelle qui il a été. Alors, c'est à peine codé, hein. Tu veux aller au Vatican? Ça s'agit de qui, tout simplement? Eh bien, de notre ami Saint-Pierre. Parce qu'on sait bien au deuxième siècle que Saint-Pierre est martyr au Vatican. De toute façon, on le sait. Encore au troisième siècle, on le sait encore au quatrième siècle. Donc ça fait partie des rares certitudes qu'on ait. Pour le Vatican, je n'ai malheureusement pas de photos à vous montrer, mais quand même, les fouilles sous Saint-Pierre ont permis d'identifier ce trophée du deuxième siècle. C'est-à-dire que, vous voyez, l'actuelle basilique du XVIe siècle est construite par-dessus la basilique du IVe siècle. Mais la basilique du IVe siècle est construite, elle, par-dessus le trophée qui date de la fin du premier ou du début du deuxième siècle. Ça, c'est un des arguments majeurs sur l'authenticité de la tombe de Saint-Pierre. Au-delà des fouilles qui ont été faites à Saint-Pierre, mais bon, je ne rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, si un jour vous allez à Rome, je vous recommande véritablement de faire des pieds et des mains pour visiter les fouilles sous Saint-Pierre. Parce que c'est vraiment passionnant. Et qu'on réalise que le maître-autel de l'actuelle basilique est exactement à la verticale au-dessus du trophée du deuxième siècle, c'est assez fascinant quand même. Et bon. Au Vatican, Saint-Pierre, sur la route d'Ostie, eh bien c'est facile. Saint-Paul, qui est où? À Saint-Paul, hors les murs. Alors là, c'est encore plus discret. Parce que imaginez quand même pas quelque chose de somptueux, hein, c'est tout petit en fait. Hein. C'est discret. Un trophée, ce n'est pas un mausolée énorme. C'est quelque chose qui permet d'identifier la tombe, éventuellement de s'y rendre. Ça ne va pas bien au-delà. Et pour le moment, on est peut-être uniquement dans quelque chose qui est de l'ordre du mémorial. Quand je dis ça, je veux dire que je ne sais pas si pour le trophée de Paul et de Pierre à Rome au deuxième siècle, on se réunit pour célébrer l'Eucharistie. Je n'en sais rien. On n'en a pas de témoignage. Et donc, il ne faut pas forcément supposer que ce qui se fait à Carthage ou que ce qui se fait en Orient se faisait aussi à Rome. En tout cas, on n'a pas forcément de raison d'avoir une vision trop monolithique de l'Église.
Alors, interruption.
Est-ce que jusque-là, ça va?
Oui.
Alors,
On continue.
pouvons-nous du coup avancer, continuant sur ce qui se passe. Je vais maintenant ouvrir un deuxième chapitre qui regarde, eh bien, là, ce qui s'est passé après Constantin. Qu'est-ce qui s'est changé avec Constantin? Voilà. Alors, petit rappel simple, juste pour qu'on soit bien d'accord. Donc, le christianisme est en régime de persécution. Alors, ce n'est pas permanent, hein, il ne faut pas exagérer. Hein, ça va, ça vient, jusqu'à la fin du 3e, début du 4e siècle. Il y a quelques persécutions beaucoup plus dures que d'autres. Mais il y a un changement décisif avec Constantin. Et Constantin, vous savez, c'est mystérieux, en fait. Hein. On ne comprend pas très très bien comment. En fait, à Constantin, on ne comprend pas très très bien comment ça marche, en fait. Parce que très clairement, il y a quelque chose qui se passe avec Constantin. Je veux dire par là qu'il y a très clairement une expérience spirituelle de Constantin. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et dans le même temps, c'est quand même très mélangé. Puisque, comme vous savez, Constantin retarde son baptême jusqu'à son lit de mort. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme le sacrement de confession n'existe pas à l'époque, il se dit, mais c'est très embêtant, parce que si je pèche après mon baptême, je serai dans une situation pire qu'avant. Alors, ça fait au moins quelqu'un qui a conscience de la valeur du baptême. Mais du coup, il retarde au maximum. Avec, dans le même temps, la création de choses qui ont profondément façonné l'Occident chrétien. Alors, ce qui fait que souvent, on se positionne par rapport à Constantin. Mais bon, moi, j'en sais rien, mais je vois juste qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne suis pas capable de dire quels en sont les tenants et les aboutissants, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une conversion de Tantin. Cette conversion conduit en 313 à ce qu'on appelle l'édit de Milan. L'édit de Milan n'est pas autre chose qu'un édit de tolérance. Mais édit de tolérance, comme il y en a déjà eu. En fait, il y a déjà eu des édits de tolérance dans l'Empire romain, qui consistaient simplement à dire, bon, manifestement, les chrétiens sont de pauvres fous, on n'arrive pas à s'en débarrasser, bon, on va quand même les tolérer. Ce n'est pas ça l'édit de tolérance de Constantin. Lui, c'est un peu plus que cela. C'est l'idée, peut-être, de favoriser d'une certaine manière le christianisme, contrairement aux idées de tolérance précédentes. Favoriser le christianisme avec des mesures extrêmement concrètes. Par exemple, rendre les biens confisqués. Par exemple, permettre à l'Église de posséder des biens, c'est-à-dire faire de l'Église un sujet du droit, ce qu'elle n'était pas avant. Par exemple, aussi favoriser la construction d'églises. Et etc., etc. Alors, c'est cette construction d'églises qui nous concerne tout particulièrement. Parce que la construction des églises à Rome au IVe siècle est profondément liée au culte des saints, donc à l'histoire des reliques. Ceci dit, c'est intéressant de remarquer que la première église construite par Constantin n'est pas lié au culte des saints. Donc, il ne faut pas faire de Constantin le bonhomme qui a confondu les saints et le Christ, ou celui qui aurait voulu absolument qu'on passe par le culte des saints, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. La première église construite par Constantin, c'est la cathédrale de Rome. La cathédrale de Rome, elle porte un nom, c'est la basilique du Latran. Qui est construite où? Pas uniquement à la place d'une caserne. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec une histoire de culte des saints. Ça, c'est intéressant quand même, hein, que la première cathédrale, enfin que la cathédrale de Rome, qui est en fait du coup, en quelque sorte, la première cathédrale de, je ne sais pas comment dire, oui, de l'Occident, ne soit pas liée à des saints. Alors qu'il aurait été beaucoup plus logique de mettre cette cathédrale sur la tombe de Saint-Pierre, par exemple, ou de la mettre sur la tombe de Saint-Paul. Non, Constantin fait autrement. Il nous dit l'évêque siégera dans un lieu, entre guillemets, neutre, qui n'est pas lié au culte des saints. Et la dédicace de la cathédrale de Rome à Saint-Jean est plus tardive. Et elle est essentiellement liée au fait qu'à côté de la cathédrale, on met le baptistère, qui du coup nous fait penser à Saint-Jean-Baptiste. C'est uniquement comme ça que ça fonctionne, en fait. Ceci dit, après avoir construit la cathédrale de Rome, la basilique du Latran, Constantin se met à construire tout un ensemble d'autres églises. Alors la première, deuxième qu'il construit, mais alors on n'est toujours pas sur les reliques des saints. La deuxième qu'il fait construire, c'est la basilique qui est juste à côté de la cathédrale du Latran, qui s'appelle Sainte-Croix de Jérusalem. Pourquoi donc? Parce que cette basilique Sainte-Croix de Jérusalem est construite à la place d'un bâtiment qui appartient à Hélène, la mère de Constantin. Et qu'est-ce qu'on met dans la basilique Sainte-Croix de Jérusalem? Tout simplement des reliques de la croix. Et ça y est, on se retrouve enfin au cœur du sujet. Premier transfert de reliques, la croix. Alors, je ne recommence pas, je l'ai évoqué l'année dernière sur la question de la découverte de la croix à Jérusalem, demandée par Sainte Hélène, etc. Bon. En revanche, ce que ça nous dit, cette affaire, si on réfléchit 2 minutes, à quoi ça sert de construire une basilique pour mettre des reliques de la croix dedans? Ok, vous pourrez me dire, bah, c'est normal, Hélène, elle, c'est celle qui a découvert la croix, alors c'est normal qu'elle en prenne un morceau. Bon, je ne suis pas sûr. Elle aurait même pu la prendre en entier. Ça l'aurait sauvé des invasions perses. Mais je crois que l'idée fondamentale qui se met en place ici, c'est de dire la croix est le lieu du salut. Je crois que jusque-là, on est d'accord. Donc, la croix comme objet va me mettre en... Enfin, si je touche la croix comme objet, je vais toucher l'endroit où il y a le salut. Enfin, c'est quelque chose de très concret, en fait, comme affaire. Au sens où les anciens sont des gens qui sont convaincus que le christianisme n'est pas d'abord une affaire éthérée, ou que la spiritualité, c'est quelque chose de concret. Contrairement à ce que les gens disent quand ils parlent de spiritualité, aujourd'hui, ils pensent à quelque chose d'abstrait. Et peut-être que d'un point de vue missionnaire, l'un des points extrêmement importants de l'évangélisation actuelle est de faire remarquer que l'évangile concerne le corps dans son ensemble, et pas uniquement un petit bout d'esprit. Mais qu'il concerne le corps dans son ensemble parce que l'homme n'est pas juste un esprit, mais qu'il est corps et âme. Et que s'il y a un salut, il concerne la totalité du corps. Donc c'est à ça que sert le fait d'avoir pris quelques morceaux de la vraie croix et de les avoir apportés à Rome. Pour dire, La croix qui est le lieu du salut est présente chez moi à Rome. Conséquence, le fruit bénéfique de la croix, lieu du salut, est également présent chez moi. Je n'ai pas besoin de faire 2000 km pour y aller. C'est un peu ça. Et comme ça, vous vous retrouvez à mettre en place encore une dimension importante des reliques, qui est le fait de s'en approcher pour bénéficier de la vertu de la relique. Basilique Sainte-Croix de Jérusalem. La basilique Sainte-Croix de Jérusalem n'est pas un lieu de culte. Je veux dire par là qu'on ne célèbre pas l'Eucharistie à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. On la célèbre à Saint-Jean de Latran, mais pas à Sainte-Croix de Jérusalem. Et les deux basiliques sont vraiment proches l'une de l'autre. Hein. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres parce que je me tromperais, mais enfin, il y a quelque chose comme 200 mètres de l'une à l'autre. Hein. Donc en fait, c'est quoi? C'est simplement que vous avez à la cathédrale le lieu du rassemblement, donc le lieu de la liturgie, et à Sainte-Croix de Jérusalem, le sanctuaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait vu sur le Saint-Sépulcre, pour ceux qui étaient là. C'était exactement le même principe que Saint-Sépulcre. La distinction du sanctuaire et de la basilique. Le tombeau du Christ est le sanctuaire. Et juste à côté, j'ai la basilique, lieu du rassemblement. Eh bien là, je fais la même chose, sauf que je sépare de 100 mètres. Mais c'est pareil, en fait. Donc, sanctuaire. Et qu'est-ce qu'on fait au sanctuaire? Ben, on ne se rassemble pas. Au sanctuaire, on visite. Je me rends au sanctuaire. Pour faire quoi? Pour vénérer les morceaux de la croix du Christ. À quoi ça sert de vénérer les morceaux de la croix du Christ? Eh bien, pour que le salut porté sur la croix me concerne également. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième église construite par Constantin. Et à partir de là, on se retrouve avec un mouvement de construction considérable. Alors, il y a... Je vais commencer par celle-là, parce qu'elle compte quand même la construction de la basilique Saint-Pierre. On est toujours dans les années 320. Sainte-Croix en Jérusalem, c'est 326-328. Saint-Pierre, c'est plutôt les années 330. Mais bon, c'est quasiment la même chose. Ah. Constantin est donc celui qui établit une hiérarchie entre le Christ et les saints. Ce n'est pas très différent de Polycarpe, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Je rends un culte au Christ, mais dans le même temps, quand même, les saints, ça compte. Et du coup, Saint-Pierre décide de construire une basilique monumentale. Pardon, Constantin décide de construire une basilique monumentale au-dessus des ossements de Saint-Pierre. Faites bien attention que ce n'est pas au-dessus du lieu du martyr de Saint-Pierre. C'est au-dessus de l'endroit où l'on a recueilli les ossements et où l'on a érigé ce trophée dont je vous parlais il y a quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il fait la même chose que Saint-Sépulcre, c'est-à-dire l'union d'un sanctuaire et d'une basilique. Une basilique pour pouvoir réunir les gens, un sanctuaire pour pouvoir faire ses dévotions. Vous connaissez un petit peu Rome ou pas du tout?
Mmh. Donc, oui.
Oui. Est-ce que j'ai pas. Enfin, bon, la, se trouve que la semaine dernière, j'ai eu une semaine épouvantable. Ça veut dire que je n'ai pas du tout eu le temps de rechercher des images qui nous aideraient à voir. Mais là, on va dire simplement que le Vatican, qu'on soit bien d'accord, est une colline. Et que c'est, à l'époque de Constantin, une nécropole, donc un cimetière. Si je veux construire une basilique considérable au-dessus d'une, sur une colline à la place d'un cimetière, vous imaginez la quantité de travaux que cela représente. Ça veut dire que, alors aujourd'hui, on voit la grande place Saint-Pierre. Bon, il y avait un cirque qui était déjà nivelé. Et quand on monte dans la basilique Saint-Pierre, enfin, si on monte sur une escalade de la coupole et qu'on va vraiment au sommet, on voit très bien derrière les jardins du Vatican et on voit très bien la colline. Si on marche par derrière et qu'on sort, on peut escalader cette colline. Mais voilà, ce qu'il faut imaginer, c'est que en fait, la colline avant allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les travaux de la basilique Saint-Pierre ont nécessité de niveler la colline. Si je nivelle une colline tout en conservant une tombe que je veux honorer, ça vous fait faire des travaux considérables. Et c'est exactement ce qu'a fait Constantin. Donc ça veut dire que pour lui, ça compte. C'est important. Enfin, on se lance pas dans des travaux de grande ampleur si ça ne compte pas. Donc une basilique, je reviendrai sur cette question des basiliques juste après. Et il met au-dessus de la tombe de l'apôtre Saint-Pierre et il nous met au-dessus ce qu'on appelle un ciborium, c'est-à-dire un autel doté d'une grande coupole qui est l'espace sacré par excellence. C'est comme ça que Constantin met en place à la basilique Saint-Pierre la réunion du sanctuaire et de la basilique. Je vous ai dit, la basilique, ça sert à réunir les gens. Le sanctuaire, ça sert à faire ses dévotions. Qu'est-ce qu'on fait comme dévotion à Saint-Pierre? Eh bien, on se rend près de la tombe de Saint-Pierre. Là, c'est extrêmement logique. C'est ce qu'on avait tout à l'heure auprès de la tombe des martyrs de Carthage. C'est ce qu'on avait tout à l'heure auprès des ossements de Saint-Polycarpe. Eh bien, on fait la même chose. Si je mets un autel au-dessus de Saint-Pierre, c'est que je fais comme Cyprien de Carthage à Carthage, j'ai l'intention de célébrer la messe au-dessus de la tombe de Saint-Pierre, c'est-à-dire au-dessus des reliques de Saint-Pierre, où relique est un mot qui ne veut pas dire autre chose que reste. Donc, les restes, moi j'appelle ça les ossements, hein. Même si tout à l'heure, il y aura peut-être d'autres reliques qui vont finir par arriver. Mais patience, chaque chose en son temps. Si je rassemble la population pour célébrer la messe au-dessus des reliques de Saint-Pierre, je suis donc en train de dire que communier au corps de Christ par-dessus le corps de Pierre, ça change quelque chose. Je répète, si je rassemble la population pour célébrer la messe au-dessus des restes de Saint-Pierre, c'est que je suis en train de dire que communier au corps de Christ par-dessus le corps de Pierre, ça change quelque chose. Et c'est comme cela qu'on voit se mettre en place ce qui a été une discipline de l'Église pendant assez longtemps et qui est toujours en vigueur, en fait, que dans un autel, il y est le corps d'un saint. C'est-à-dire qu'on voit se mettre en place le lien entre l'Eucharistie et le culte des saints. Donc, entre l'Eucharistie et le culte des reliques. Je crois que le lien, pour le comprendre, il se fait de deux manières. Première manière, celle que j'ai amplement déployée avec Saint Polycarpe, qui était de dire que le saint est celui qui a été à l'image du Christ et qui du coup peut m'entraîner dans le même mouvement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est un intermédiaire. Ça veut juste dire qu'il est à l'image du Christ et qu'il m'entraîne dans le même mouvement. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, pour comprendre, c'est de dire que moi, ce que je vise, c'est la vie éternelle. OK, j'ai un seul modèle, c'est le Christ. Mais mon modèle, le Christ, va s'actualiser en passant par les modèles que sont les saints. Alors ça, une vraie théologie des saints. Ça, c'est une chose où ça veut dire que peut-être que notre monde, de ce point de vue-là, a tellement désenchanté l'histoire qu'il l'a un peu oublié. Mais pour les contemporains du IVe siècle, il était évident que le martyr est la preuve de ce que le Christ est toujours à l'œuvre. Pour les hommes du IVe siècle, il est évident que l'existence des saints est la preuve que le Christ est toujours à l'œuvre. Je vous dis ça parce que je ne suis pas du tout sûr que notre monde, y compris chrétien, se dise que le Christ est à l'œuvre, de manière très concrète en fait. Et je suis encore moins sûr que notre monde se dise que c'est le Christ qui est à l'œuvre dans l'histoire de la sainteté. Ça veut dire que si je raconte l'histoire des saints, que si je fais mémoire des saints au jour de leur martyre, eh bien, je ne suis en train de faire mémoire de l'œuvre du Christ. C'est quand même pas rien. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est rien d'autre que les actes des apôtres, hein. Puisque les actes des apôtres sont uniquement construits sur l'idée que les apôtres font la même chose que le Christ. Et s'ils font la même chose que le Christ, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout également. Eh bien, moi, ce que maintenant je suis en train de vous dire, c'est qu'il en va de même pour les saints martyrs, qu'il en va de même pour les confesseurs de la foi. Et la semaine prochaine, peut-être, on en arrivera au fait qu'il en va de même pour tous les saints. Mais s'il en va de même pour les saints confesseurs et les saints martyrs pour le moment, ça veut dire que leur corps peut faire l'objet d'une vénération de la même manière que le corps de Christ fait l'objet d'un culte. Ça va ensemble. C'est-à-dire que du coup, je peux vénérer le corps des saints de la même manière que je rends un culte à l'Eucharistie. Et vous voyez du coup se construire en même temps la question eucharistique et la question du culte des reliques. Est-ce que c'est clair ça? Alors, je continue parce que là, maintenant, ça se complique un petit peu. Constantin ne se contente pas de faire cela. Il rajoute plusieurs autres basiliques. Alors, je vais vous en faire la liste. Elles font partie des grands lieux de pèlerinage à Rome, même si on en oublie souvent quelques-unes. Il y a, sous Constantin, la basilique Saint-Laurent. Sur la Via Tiburtina. La Via Tiburtina, c'est la route qui part vers le nord-est, vers l'Étrurie. Saint-Laurent, diacre et martyr. Oh, on connaît très bien son histoire, hein. Vous savez, c'est celui qui, pour le coup, il a fini grillé, lui aussi. Et lui aussi, la grillade n'a pas très bien marché, en fait. Bah. Saint-Laurent, diacre de Rome. Donc, Constantin, en construisant une basilique à Saint-Laurent, nous dit, ah mais il n'y a pas que les apôtres qui comptent. Surtout que Constantin n'a pas construit de basilique à Saint-Paul. La basilique Saint-Paul dans les murs, c'est bien après Constantin. Ça n'intéresse pas, lui, Saint-Paul. Mais en revanche, Saint-Laurent, oui, parce que c'est le bonhomme local. Comme dit un de mes amis animateurs d'aumônerie, je voudrais faire goûter aux jeunes d'aumônerie, la spiritualité locale. Donc, quand on est à Suresnes, ça veut dire Sainte-Geneviève, la Vachère Marguerite Mazot et l'abbé Franz Stock. Trois histoires radicalement différentes, peu importe. Histoire locale, basilique Saint-Laurent, qu'on ne connaît pas ailleurs, en fait. Également, il nous fait construire la basilique Saint-Pierre Marcellin, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas le même Pierre, qui, elle, est sur la via Labicana, la route qui part vers le sud-est. On est toujours en périphérie. Ben, c'est normal, puisque Saint-Laurent et les ossements sont dans un cimetière en périphérie. Saint-Pierre et Saint-Marcellin, deux martyrs de Rome, sont en leurs ossements en périphérie. Bon, soyez pas surpris, les nécropoles à Rome, c'est toujours en dehors des murs, hein, c'est normal. On ne met pas les morts dans la ville, on met les morts à l'extérieur de la ville. C'est le chrétien qui met les morts à l'intérieur de la ville, en fait. Basilique Saint-Pierre et Marcellin. Basilique Sainte-Agnès. Elle est sur la Via Nomentana, la route de l'Est. Sainte Agnès, encore une martyre, Rome. Qu'est-ce qui nous fait d'autre? Qu'est-ce qui nous fait d'autre? Une basilique des saints apôtres. Qui est l'actuelle basilique Saint-Sébastien, et elle est sur la Via Appia, donc la route du sud-ouest. Basilique des saints apôtres, qui est l'actuelle basilique Saint-Sébastien, ça veut dire que là, Constantin, alors là, on a une vraie innovation. Il trouve que quand même, Pierre et Paul, ça ne suffit pas. Parce que finalement, les autres apôtres, ils sont où? Ah ben, il serait heureux de le savoir. Mais comme Constantin a conscience qu'une église est fondée sur les saints apôtres, il veut une basilique des saints apôtres. Il la met par-dessus les tombes de Saint Sébastien, autre martyr de Rome, et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher en Orient des petits bouts d'ossements de Saint Luc et de Saint André. Ne me posez pas la question de l'authenticité, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. En revanche, ce qui est important, c'est que pour christianiser l'espace de la ville de Rome, Constantin s'autorise à aller chercher des reliques de saints apôtres bien à l'extérieur de Rome, puisqu'on est à Saint-Luc et Saint-André sont en Orient. D'accord? Alors, je vous en fais grâce de toutes les églises construites par Constantin. Ce que je vous fais remarquer, c'est que du coup, il constitue un sanctoral, c'est-à-dire une liste de saints. Ceux qui connaissent la messe par cœur auront peut-être reconnu dans ma liste ce qu'on appelle le canon romain. Le canon romain, la prière eucharistique numéro 1, qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez, on a une liste de saints. Un jour, je l'ai prise à la paroisse et quelqu'un me dit, c'est quoi tous ces prénoms qui débarquent? Ben, c'est exactement ça. Ce sont les saints martyrs de Rome. Saint Marcellin et Pierre, Saint Jean et Paul, Sainte Agnès, etc., etc. Constitution d'un sanctoral. Constitution d'une géographie sacrée. Constitution d'une géographie sacrée, ça veut dire que les tombes des saints dans les cimetières deviennent des lieux saints. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de trophées, je vous ai parlé de mémoriaux. En fait, là, maintenant, on étend aux saints ce qui existait pour quelques saints particuliers. Le fait d'aller célébrer l'Eucharistie au-dessus de leur tombe. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe à la basilique Saint-Laurent, ce qui se passe à la basilique Saint-Pierre et Marcellin, à la basilique Sainte-Agnès, à la basilique Saint-Sébastien et dans les autres lieux. Donc, une géographie sacrée. Et si vous avez suivi mes explications géographiques, la Via Tiburtina, la route du nord, la Via Labicana, la route de l'est, la Via Nomentana, la route du sud-est, la Via Appia, la route du sud-ouest, eh bien, j'ai la totalité de la géographie qui se retrouve. C'est-à-dire que le centre de la ville de Rome se retrouve cerné par cette géographie sainte. À l'époque de Constantin, ça n'est pas à l'intérieur des murs. Hein. Attention. À l'époque de Constantin, c'est uniquement hors les murs. Géographie sainte qui se met en place. Et la géographie sainte va se doubler, bien évidemment, d'un temps liturgique. Puisque je vais me rendre, en fonction des jours, à telle ou telle basilique. Saint Laurent le 10 août, Sainte Agnès le 21 janvier, Saint Marcelin et Pierre le 3 octobre, et Saint Sébastien, je ne sais plus quand, en septembre de mémoire.
En janvier.
Ah, en janvier, ah, pardon, merci. Ah ben oui, le 20 janvier, pardon, oui, c'est vrai. C'est cette semaine. La... Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec un temps saint. Alors, c'est là où on arrive à un changement extrêmement important. Parce que si je mets une basilique dans un cimetière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être obligé de transformer un peu mon cimetière. Parce qu'auparavant, j'ai juste éventuellement un modeste trophée. J'ai éventuellement, vous voyez, un petit monument qui me dit « c'est là la tombe de Saint-Laurent, c'est là la tombe de Saint-Pierre et Marcelin ». Imaginons même que j'ai un graffiti sur le mur de dire « moi, Gaius, je suis passé par là ». Pas plus. Si je décide de faire une basilique, je répète, une basilique, ça sert à réunir les gens. Ben, je suis obligé de déménager le cimetière. Parce que imaginez pas qu'il y avait de la place libre à côté. Il n'y avait, enfin, si vous avez visité des catacombes, vous voyez bien comment c'est. Les catacombes, c'est, il y a une surpopulation funéraire dans les catacombes. Surtout que le principe des catacombes, c'est qu'on creuse au fur et à mesure. Avec du coup ce phénomène très, très étonnant, c'est que plus je creuse profond, plus ma tombe est récente. Qu'est-ce que je fais commence par être logique. Je creuse d'abord au ras du sol. Quand j'ai complété le ras du sol, eh ben, je fais un étage en dessous. Et je continue jusqu'à ce que ça soit complètement plein. Donc, les catacombes, au-delà, vous savez, de toute la mythologie qui existe, ah, on se réunit aux catacombes, etc. OK, mais on ne peut pas se réunir à 50, hein, on n'a pas la place. Il y a des repas des morts qui sont prévus, mais les repas des morts des anciens païens ne se font pas à côté de la tombe du défunt. Au niveau de la tombe du défunt, je suis chez les païens, attention. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des libations, donc des sacrifices, des oblations, enfin des rites. Mais après, moi, je vais manger là où je peux, quoi. C'est-à-dire là où j'ai de l'espace. Et je n'ai de l'espace que à la tombe, que dans le cadre des mausolées. Ou pour les gens, vous voyez, qui ont des tombes quand même assez consistantes. Enfin, le monsieur tout le monde, il n'a pas ça. Donc, le monsieur tout le monde, il, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il va faire sa libation sur la tombe de ses ancêtres et après, il se trouve une salle commune pour manger les repas auprès des morts. Mais la salle commune, elle est partagée avec le monsieur tout le monde d'à côté. On est bien d'accord là-dessus. Donc, lorsque les chrétiens du 3e siècle vont rendre visite aux tombes, et ça, ils le font, aux tombes chrétiennes, imaginez pas qu'ils vont faire un grand culte chrétien, il n'y a pas la place. C'est juste une question matérielle, en fait. Donc, l'idée du chrétien qui se réunit dans les catacombes, ça, c'est une espèce de mythologie du 19e siècle. Hein. Ça n'a jamais existé. Parce que lorsque je vais dans les catacombes, d'abord, un, il y a plein de monde. Alors, pour se cacher, c'est quand même pas, c'est pas idéal. Et en plus, il n'y a pas la place. Ça veut dire que si je me réunis, je me réunis pour être avec d'autres. Alors, faites attention. Parce que c'est le 4e siècle qui a changé l'affaire. Qu'est-ce qui se passe au 4e siècle? Lorsque je construis ma basilique, par exemple, je prends n'importe quoi, Saint-Laurent, au hasard. Un, je déménage les tombes pour rendre accessible la tombe de Saint-Laurent. Deux, j'organise l'existence d'une salle pour permettre aux chrétiens de se réunir au plus près de la tombe de Saint-Laurent. Trois, je bâtis un autel pour célébrer la messe au-dessus de la tombe de Saint-Laurent. Donc, je répète, je déménage le cimetière, j'organise une salle pour permettre aux gens de se réunir et je bâtis un autel. Donc, ça veut dire que je transforme considérablement l'espace. C'est seulement à partir de la paix donnée aux églises qu'on a célébré l'Eucharistie au-dessus des tombes des saints martyrs dans la périphérie de Rome. Donc, les messes des catacombes sont des messes légales, pas des messes illégales. D'accord? Bon, quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas pu arriver qu'un jour le pape ait célébré une messe à côté d'une tombe cachée. C'est possible. Mais ce n'est pas la majeure partie de l'histoire. En tout cas, ce que nous avons dans la mythologie, vous voyez, quand on visite les catacombes, on a toujours l'impression que c'est très grand, qu'il y a plein d'espace partout. Ben, précisément parce que c'est fait pour, en fait. Nous, on visite quelque chose qui a été construit pour rassembler les gens. Donc, en fait, donc cela est vrai de toutes les catacombes autour de Rome. Alors, qu'est-ce qui se passe alors dans le culte des reliques? Pour terminer ce soir, deux choses. Si j'ai dégagé le cimetière pour faire de l'espace et rendre les catacombes assez accessibles, ça veut dire que, extraordinaire, moi qui suis chrétien, je peux être enterré à côté des saints. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le développement de ce qu'on appelle l'inhumation de Santos, l'inhumation auprès des saints. Alors, dit de manière plus simple, on se retrouve avec la formation d'importants complexes funéraires chrétiens auprès des tombes des saints martyrs. Cela n'est possible qu'au IVe siècle. J'insiste parce qu'en fait, avant le IVe siècle, comment ça marche? Les chrétiens sont au milieu de païens. C'est normal, c'est les nécropoles sont les mêmes en fait. Vous savez, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a fait les premières fouilles sous Saint-Pierre. Pie XI, début du XXe siècle, avait demandé à une équipe d'archéologues de creuser à côté de Saint-Pierre pour voir comment c'était. Et là, paf, il tombe. Et l'archéologue va trouver le pape en disant: Oh, très Saint-Père, horreur, ce sont des tombes païennes. Pie XI, qui n'était pas très doué en histoire, je suis désolé de dire cela, il a dit, Ouh là là, il ne faut surtout pas le dire. Ben, en fait, c'est logique, en fait. Pie XII, qui était plus malin en histoire, lui, au contraire, a dit, bah oui, mais lui, mais en fait, c'est extrêmement logique. C'est normal que Saint-Pierre soit au milieu de païens. Qu'est-ce qu'on veut trouver d'autre? Ben, c'est la nécropole des gens de son époque. Donc, en fait, on ne peut pas faire autrement, en fait. Donc, lorsque j'ai des catacombes avec de multiples tombes chrétiennes, cela date nécessairement d'après la paix de Constantin. Et de cette histoire que je vous ai racontée. Donc, on se retrouve à partir du IVe siècle avec la constitution de gigantesques cimetières chrétiens. Alors, pourquoi vouloir être enterré à côté de Saint Marcellin et Pierre, de Saint Sébastien, de Sainte Agnès ou de tous les autres? Eh bien, soyons bien clairs. Pour une histoire de vie éternelle. Donc, pour le moment, j'en suis toujours à mon affaire que les restes des morts chrétiens servent à la vie éternelle. Alors, je vous rappelle, l'affaire, c'est que le culte des martyrs doit m'aider à devenir martyr. On l'a lu tout à l'heure. Ah, mais moi, je n'arrive pas à être martyr. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu? Ah ben non. En fait, j'ai foi en la miséricorde de Dieu. Ça veut donc dire que je vais me mettre juste à côté du saint martyr. Comme ça, le corps du martyr va m'aider à aller plus vite au ciel. C'est ça l'idée, en fait. C'est que sa vertu, puisque de son vivant, il n'a pas réussi à faire que je devienne martyr, au minimum, il peut faire que moi, j'ai la vie éternelle, parce qu'en fait, c'est ça qui compte. Donc, l'inhumation près du saint martyr a pour but de m'aider à aller au ciel. Traduction simple, le corps du saint martyr devient un corps saint. D'accord ? Je ne suis pas sûr qu'il l'était au tout début. Je suis sûr qu'il l'est devenu au IVe siècle. Le corps d'un saint martyr est devenu un corps saint. Alors, c'est quoi un corps saint ? Mais un corps saint, c'est un corps qui fait du bien. La sainteté, ça fait du bien, hein, sinon ça ne sert à rien, en fait. Hein. On n'est pas du tout, voyez, dans l'histoire d'un diplôme accordé. Ce monde-là est un monde qui est très attaché à la communion des saints. Mais vous savez, la communion des saints, la communio sanctorum, c'est la communion entre les saints du ciel et les saints qui sont sur la terre. Les saints du ciel sont les saints dont la sainteté est éprouvée, et les saints sur la terre sont tous les chrétiens. C'est l'idée qu'il y a vraiment quelque chose de commun, en fait. Et quand je parle de communion, moi, je n'ai pas de mot pour dire l'union la plus intime qui puisse exister. Donc, si je me fais enterrer à côté du saint, c'est exactement au nom de cette logique-là, de la communion des saints. Et si je consomme l'Eucharistie, donc que je communie au corps du Christ, d'une Eucharistie qui a été célébrée au-dessus du corps de Saint-Laurent, ça veut dire qu'avec l'Eucharistie, je communie au saint. Est-ce que c'est un peu clair cette histoire du passage par l'Eucharistie ?
Oui.
Oui. Donc, l'inhumation ad sanctos a pour but de me faire bénéficier des vertus du saint, en disant, bah, après tout, moi, si j'ai un peu raté ma vie, le saint, lui, il va m'aider à avoir la vie éternelle après la mort. C'est comme ça que ça marche. Et vous vous retrouvez alors avec les catacombes romaines, ben, toutes celles qu'on visite, domicile, Priscille, Calixte. On va pas, en fait, il ne faut pas aller là-bas en se disant « Ouh là là, je vais avoir un témoignage de l'église souterraine du IIe siècle ». Non, il faut aller là-bas en se disant « Je vais avoir un témoignage de la foi en la résurrection des morts et du pouvoir de l'intercession des saints des hommes du IVe siècle ». Et quelque part, je crois que c'est plus intéressant pour nous, en fait. En fait. Et du coup, peut se mettre en place avec cette géographie sacrée une deuxième chose qui va être un pèlerinage. Un pèlerinage, ça veut dire que je n'habite pas à Rome, mais je vais me rendre à Rome pour bénéficier de la vertu des corps des saints. En fait, c'est ce qu'on fait hein, quand on va à Rome. Il y a très peu de gens qui vont à Rome pour aller vénérer le Saint-Escalier de Ponce Pilate. Surtout que ça prend beaucoup de temps de vénérer le Saint-Escalier de Ponce Pilate. Puisque pour vénérer ce Saint-Escalier, il faut le monter à genoux avec interdiction de dépasser la personne qui est devant vous. Et si vous n'avez pas de chance et que vous tombez sur quelqu'un qui s'arrête une demi-heure à chaque marche, eh bien, il vous faudra 3 heures pour vénérer l'escalier de Ponce Pilate. Raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait. Mais vous voyez, Si je vais à Rome, c'est pour faire le pèlerinage de l'Église. Mais le pèlerinage de l'Église qui se met en place très tôt, parce qu'en fait, il se met en place dès l'époque de Constantin. C'est un pèlerinage auprès des saints. Je ne vais pas non plus à Rome pour vénérer les reliques de la Vraie Croix. Il y a très peu de gens qui vont à Rome vont à Sainte-Croix en Jérusalem. En revanche, tout le monde va à Saint-Pierre, tout le monde va aux catacombes, tout le monde fait ça, en fait. Mais parce que je vais auprès des saints. Alors, les pèlerinages se mettent en place très, très vite. Se met en place très, très vite. C'est-à-dire que les gens vont se rendre auprès des corps pour vénérer les corps, mais parfois pour faire d'autres petites choses. Par exemple, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas trop emporter un morceau du corps. Du coup, on va faire autrement. Alors, c'est un témoignage beaucoup plus tardif, mais qui ne contredit pas, qui ne dit rien d'extraordinaire par rapport à ce qui se passe. C'est le cas, par exemple, d'un certain prêtre envoyé par la reine des Lombards. Donc, les Lombards, c'est des barbares, comme le nom l'indique, même s'ils habitent en Italie. La reine des Lombards s'appelle Théodelinde. Les reines des Lombards, les Lombards vivent en Lombardie. Et elle envoie un prêtre auprès des tombes des martyrs à Rome. Et elle lui dit, il faut que tu me rapportes un souvenir. Parce que, ok, je n'ai pas envie d'y aller, je ne peux pas y aller, mais je t'envoie à ma place, donc il faut que tu me rapportes quelque chose. Alors, aujourd'hui, nous, on rapporterait une photo. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai vu des gens faire des pèlerinages par procuration. Vous le faisiez par le biais de la photo. Il y a 70 ans, on aurait rapporté des cartes postales. Eh bien, comment est-ce qu'on fait à l'époque de Théodelinde pour rapporter des souvenirs? Puisqu'on n'a pas la photo, on n'a pas la carte postale. Eh bien, tout simplement, le prêtre revient auprès de la reine Théodelinde avec plein de petites fioles. Et qu'est-ce qu'il met dans ces fioles? Qu'est-ce qu'il y a dans les fioles? De l'huile. Et où est-ce qu'il a pris cette huile? Eh bien, il l'a prise dans les lampes qui brûlent près des tombes des martyrs. Donc, ça veut dire, ah, tiens, j'ai... dit comme cela, tenez ma souveraine, j'ai l'huile près de la tombe de Saint-Pierre, l'huile près de la tombe de Saint-Paul, l'huile près de la tombe de Sainte-Agnès, etc., etc., etc. C'est comme ça que je commence à rapporter des objets. Alors, ça, vous avez un témoignage, ce n'est pas l'invention, parce que je vous dis, ça a été mis en place bien avant, de ce qu'on appelle la relique par contact. Donc, la relique par contact, c'est différent de la relique même. La relique elle-même, c'est un bout d'os, un bout du corps. La relique par contact, c'est tout ce qui a touché de près ou de loin le corps. Ben, par exemple, l'huile. Alors, vous voyez, l'huile, c'est quand même de loin, parce qu'elle n'est quand même pas juste à côté. Mais vous voyez comment maintenant je peux fabriquer des reliques. C'est très facile. Il suffit de faire toucher au corps du saint un objet. Ça s'appelle une relique par contact. C'est une catégorie un peu faible, hein, vous savez, parce que quand même, le contact n'est pas très important, etc. Mais n'empêche que ça existe encore. Hein. Moi, je vous raconte ce que j'ai vu, je l'ai vu de mes yeux. Lorsque je vivais à Rome, j'étais déjà prêtre. Donc, comme je faisais partie de ces touristes qui célèbrent la messe au-dessus des corps des saints le jour des fêtes des saints, j'avais donc décidé de célébrer la messe au-dessus de la tombe du pape Saint-Jean XXIII. C'est facile, elle est dans la basilique Saint-Pierre, au rez-de-chaussée, en plus, pas besoin de descendre au sous-sol. Et puis, j'attendais mon tour, parce qu'il y avait un groupe Siciliens. Et je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Enfin, ne finissait plus. Je les voyais, ils étaient tous à genoux, ça ne finit plus. Quoi. Et alors, au bout d'un moment, j'ai compris. Parce qu'ils se passaient tous des mouchoirs. Donc, il y avait une dame tout au fond qui passait un mouchoir à celle devant, qui passait à celle devant, qui passait à celle devant, qui passait à celle devant. Et celle qui était au premier rang, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait les mains tendues à travers la grille pour faire toucher le mouchoir sur la tombe de Saint-Jean XXIII. Et puis après, on refaisait remonter le mouchoir dans l'autre sens. Et c'est comme ça que vous avez retrouvé en une demi-heure 30 reliques par contact de Saint-Jean XXIII. Tous ces gens-là sont rentrés chez eux avec cette relique. Alors, dans le but de probablement de se dire chez eux, oh là là, maintenant, je ne sais pas exactement, je ne l'aurais pas dit pour demander, mais probablement en se disant, bah, maintenant j'ai un objet saint, parce qu'il a touché le corps du saint. Si le corps du saint est devenu saint, ça veut dire que tout ce que ce corps va toucher va être saint, puisque la sainteté, ça se communique. Alors, peut-être que pour vous, c'est de la superstition. C'est possible, j'en sais rien. Mais je ne cherche pas d'ailleurs forcément à défendre ce genre de pratique. Je vous dis juste sur quelle notion ça s'enracine. C'est-à-dire que le fondement, c'est que le corps est ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, il sent bon. Et s'il sent bon, c'est que ça me fait du bien. C'est ça le schéma théologique. Après, vous pouvez vous dire, moi, j'en ai pas besoin. C'est une chose. Je vais vous dire, les reliques par contact, c'est idiot, c'en est une autre, mais n'empêche que le schéma est logique. Le schéma est logique. Alors, peut-être que je vais m'arrêter là maintenant. Parce que... Enfin, conclure là-dessus. Parce qu'après, je vais passer sur quelque chose d'un peu différent. C'est que le lieu de culte, ça c'est un peu la conclusion de ce soir. Le lieu de culte chrétien, au IVe, n'est plus seulement une salle de réunion, ne sert plus seulement à rassembler la population. Mais il devient un sanctuaire propre du terme. Un sanctuaire, c'est quelque chose qui abrite quelque chose de saint. Ce peut être une relique de la Passion du Christ, la croix par exemple, comme ce peut être les restes d'un corps. J'insiste là-dessus. Ce qui fait que le lieu de culte est sanctuaire, ce n'est pas la présence réelle eucharistique, c'est le corps du saint. Et pourtant, il y a la présence réelle eucharistique au IVe siècle. Mais c'est le corps du saint qui fait que c'est un sanctuaire. Mais alors après, j'ai été suffisamment clair, j'espère, pour montrer que les deux vont ensemble, l'Eucharistie et le corps du saint. Parce que le saint est celui qui a vécu ceci et mon corps livré pour vous, de manière complète. D'accord ? Du coup, lorsque je me rends au tombeau du saint, je réactualise les événements de l'histoire sainte. Ce n'est pas juste je la répète, c'est je la réactualise. Ou à cette époque-là, on a une notion très forte du fait que quand je raconte l'histoire, je la rends présente. Alors que nous, on a perdu cela. Mais ça, on l'a perdu, c'est très simple, avec l'invention en fait, de la disparition de la veillée familiale. Parce qu'en fait, tant que j'ai une veillée familiale où je raconte une histoire, je la rends présente. Alors, nous, on le vit cela un peu, vous savez, quand on regarde un film. Hein. Enfin, en tout cas, les gens qui sont dans le film complètement, vous voyez, qui ont peur avec le bonhomme qui a peur, qui... Voilà. Mais le fait de raconter l'histoire la rend présente. Voilà. Mais je la réactualise parce que c'est une histoire sainte. C'est ça que c'est important. C'est une histoire sainte. Pourquoi ? Parce que toute l'histoire de l'Église est une histoire sainte. Voilà ce que pensent les anciens. Donc, du coup, lorsque je raconte l'histoire de l'Église, je raconte l'histoire sainte, c'est-à-dire l'histoire de Dieu, ou de la relation de Dieu et de son peuple. Voilà. Alors, je m'arrête là donc, mais donc, du coup, on est arrivé à ce terme de l'invention du sanctuaire qui permet le culte des reliques, c'est-à-dire le culte des restes, ou des ossements, ou du corps, parce que ce corps est un corps saint, le corps d'un saint. Alors, la semaine prochaine, eh bien, j'avancerai avec cette fois-ci les déménagements. Donc, si vous voulez, le titre de la semaine prochaine, ça sera « Invention et déménagement ». C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'ai des reliques de gens attestés. Et la semaine prochaine, on va inventer des reliques, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire les découvrir. Comment je vais faire pour découvrir des reliques ? Et une fois que je les aurai découvertes, eh bien, je vais les déménager, je vais les déplacer. Pour les avoir avec moi, c'est tellement mieux. Eh bien, bonne soirée à chacun.
Ok. Merci
bonne
Philippe,
soirée.
bonne soirée à toi
Merci
aussi.
beaucoup.
Merci, bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée. Merci Philippe.
Merci beaucoup.
Allez, de rien.